Voilà, merci beaucoup, c'est entendu, hein. Vous avez enregistré. Utilisons nos représentants au Parlement européen. Alors voilà, Maria Reda. Alors avec vous, on va parler du socle européen des droits sociaux. C'est dans le fond ce qu'on regrette depuis de longues et de très longues années. C'est une Europe, on dit, ben, cette Europe n'est pas sociale. C'est d'abord une Europe de marchands, une Europe économique, libérale, fondamentalement. Et donc, est-ce que c'est un mythe ou bien est-ce qu'il y a des choses sérieuses qui s'annoncent, qui sont porteuses d'espoir? Et on y reviendra, évidemment, de façon encore plus concrète sur les questions qui concernent le secteur de l'alphabétisation des adultes. Voilà. On vous écoute.
Merci. Et je pense que par rapport à ce qui a été dit, les questions qui ont été posées par Eric, il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter. Je pense que l'Europe, elle souffre de la même, on a parlé tout à l'heure, de. Je ne suis pas psychologue, ni psychanalyste, ni psychothérapeute, et donc si je fais le lien avec la question de la schizophrénie, excusez-moi s'il y en a qui connaissent mieux la pathologie de la schizophrénie, mais je pense que l'Europe vit cette réalité, tout comme les États membres le vivent. Donc on n'est pas plus ou moins schizophrène à l'Europe qu'ailleurs. On souffre exactement de la même pathologie au niveau européen, tout simplement parce qu'on est les mêmes. On est des représentants élus, et on est soit élus au niveau européen, soit élus au niveau national, mais finalement on représente les mêmes réalités. Et quand Claude disait tout à l'heure, il y a effectivement des communications européennes qui sont intéressantes, et il a parlé de la communication sur le socle de compétences, et il y a une autre communication qui vient sur la table, qui est le pilier européen des droits sociaux, ça fait aussi partie de cette logique qui est de dire il faut faire mieux, il faut faire plus sur un plan social européen. Et là-dessus, ce serait politiquement parlant incorrect de dire le contraire. Même pour des groupes politiques qui sont de droite, et malheureusement Claude fait partie du PPE qui est un des groupes les plus conservateurs sur la question des droits sociaux. Le pauvre, c'est pour ça que je lui ai dit bonne chance, parce que sincèrement, c'est une réalité qui est... je veux dire, moi j'ai connu le projet européen il y a... un peu plus de 30 ans, donc quand tu disais que j'ai eu des passages, enfin, je veux dire, moi, quand j'ai commencé, je suis sortie de l'UNIF en 88, j'étais fondamentalement européenne. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le domaine de la formation professionnelle pour adultes, dans le cadre de projets européens. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir exercer en tant que ministre de la formation professionnelle en Wallonie et de l'emploi. C'était toujours dans le cadre de projets européens, mais soutenus avec des opérateurs locaux. Et puis l'enseignement, idem. Donc je trouve que on peut être européen, mais critique du projet européen. C'est pas parce qu'on est critique du projet européen qu'on est contre le projet européen. Parce que c'est pas parce qu'on est critique du gouvernement belge qu'on est contre la Belgique. Bon, sinon... je ne sais pas où on va demander l'asile politique, je ne sais pas où, mais... et donc on doit se permettre, et au contraire, quand on est, je dirais, un Européen convaincu, on doit se permettre la critique. Et donc, quand on dit « il faut des communications », c'est bien. Pourquoi est-ce qu'on passe par le biais des communications? C'est parce que ce n'est pas une compétence européenne. Donc à partir du moment où ce n'est pas une compétence européenne de travailler sur l'éducation, la formation, la compétence en tant que telle, les compétences des personnes, on doit utiliser les autres outils pour le faire. Soit la coopération renforcée, soit les échanges de bonnes pratiques, soit les recommandations, soit... Et donc, on a des outils limités pour pouvoir agir. Ça, c'est sur un plan purement institutionnel. Et sur un plan politique, il y a, comme je le disais tout à l'heure, une schizophrénie qui est de dire, politiquement parlant, il faut dire qu'on doit le faire, mais concrètement parlant, on n'a pas envie de le faire. Et il y a aujourd'hui une majorité au sein du Parlement européen, qui est une majorité élue, de droite, qui ne veut pas avancer sur la question du plus social européen. C'est un constat, aujourd'hui. Alors on essaye malgré tout de tordre cela en utilisant justement cette hypocrisie je ne sais pas comment le dire autrement. C'est-à-dire, quand ils déclarent qu'ils veulent plus de social, ben, on les met devant une certaine réalité en disant, bon, ben, écoutez, vous avez déclaré dans toutes les communications que vous voulez plus de social, maintenant il va falloir passer à l'action. C'est comme ça qu'on a obtenu la garantie jeunesse à l'époque. C'était, ah, il faut faire plus de social. Bon, ben, quel est le budget qu'on met sur la table pour le faire? Et comme c'était très difficile pour eux, avec des taux de chômage après la crise de 2008, des taux de chômage de jeunes qui explosaient en Europe, c'était difficile de dire, il faut qu'on fasse quelque chose, mais en même temps, on veut rien faire. Donc, on a obtenu la garantie jeunesse. Mais en même temps, de l'autre côté, il y a, je suppose que vous avez tous entendu parler du semestre européen, c'est-à-dire que tous les ans, les politiques nationales sont analysées au regard des budgets nationaux et uniquement au regard du budget. Et donc, la Commission européenne fait, en fonction de vos déficits budgétaires ou de votre trajectoire budgétaire, elle vous fait des recommandations qui, effectivement, ne sont pas obligatoires. Donc, ce ne sont pas, donc, ce qu'on appelle les plans nationaux de réforme ne sont jamais obligatoires. Mais en même temps, quand vous faites un plan national de réforme, en disant, attendez, vous n'êtes pas tout à fait dans les clous budgétaires. Et donc, si vous ne respectez pas ce qu'on vous dit de faire, vous allez être en difficulté par rapport aux fonds structurels qu'on vous donne, par rapport à sanctions qu'on peut vous appliquer, par rapport... Mais à un moment donné, vous n'avez pas d'autre choix que d'appliquer vos plans nationaux de réforme. Et aujourd'hui, quand on regarde les plans nationaux de réforme, ce sont toutes des politiques qui viennent attaquer les droits sociaux. Et donc c'est ça qui me pose difficulté, ce que j'appelle la schizophrénie, c'est que d'un côté on a une communication sur le pilier européen des droits sociaux, et sur lequel on va certainement apporter un certain nombre de réflexions en disant il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et de l'autre côté, quand on regarde les plans nationaux de réforme, ce ne sont que des propositions qui viennent attaquer les droits sociaux, que ce soit la question de la santé. Je veux dire, quand le gouvernement belge aujourd'hui dit il faut faire des économies dans la sécurité sociale, la Commission européenne a fait des recommandations dans ce sens, en disant, vous avez un système de sécurité sociale qui coûte trop cher. Et donc, bah, c'est facile pour un gouvernement de droite, mais ce serait difficile pour un gouvernement de gauche de pas faire des propositions là-dessus, pour être dans les clous. Quand la Commission européenne dit, vous avez un système de retraite trop généreux, il faut aller taper sur la question des retraites, c'est compliqué de pas aller travailler sur la question des retraites. Quand la Commission européenne dit vous avez des dépenses publiques, et les dépenses publiques, on sait ce que c'est. Enfin, je veux dire, en Belgique, si vous retirez les retraites, le chômage, en sécurité sociale, les pensions et la question de l'éducation, ben, il vous reste plus grand-chose hein, comme dépenses publiques. Hein. Vous avez, oui, vous avez la sécurité, mais bon, pour le moment, la question de la sécurité, c'est quand même assez touchy. La sécurité physique, hein, on parle ici de la sécurité. Il y a d'autres formes de sécurité sociale qu'on peut effectivement aussi défendre. Et donc, cette schizophrénie, elle existe. C'est d'un côté, on dit on va faire des communications et on va faire quelque chose, et de l'autre, on dit il faut quand même aller taper structurellement dans ce qui va générer ces pauvretés à terme et à moyen terme. Et donc, on est vraiment dans cette difficulté-là aujourd'hui. Et ça, c'est si on ne souffre pas soi-même de schizophrénie, c'est compliqué. Parce que on se dit, mais dans quelle cohérence on se trouve? Alors, c'est la raison pour laquelle, dans le cadre du pilier européen des droits sociaux, on a dit, on est d'accord de travailler là-dessus, mais à une seule condition, c'est que tout ce qu'on va dire là va être utilisé comme outil dans le cadre du semestre européen. Donc on a demandé qu'il y ait un lien entre ce qu'on fait là en matière de communication et ce qui va être fait tous les ans comme suivi, indicateur et recommandation au niveau national. Je donne un exemple. Moi, je travaille beaucoup sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. On sait que les politiques d'austérité ont été particulièrement sensibles, ont touché plus particulièrement les femmes que les hommes, pour différentes raisons, mais les femmes sont plus touchées par ces politiques d'austérité. Eh bien, c'est de dire, quand on fait le pilier européen des droits sociaux et qu'on dit il faut travailler sur le gap qui existe aujourd'hui au niveau des pensions des femmes, Eh bien, c'est de dire, vous ne pouvez pas prendre des recommandations et de mesures au niveau national qui vont renforcer le gap de pauvreté que les femmes retraitées ont. Donc on fait ce lien-là pour justement faire en sorte que on ne prenne pas des décisions qui soient incohérentes par rapport à ce qu'on est en train de faire dans le pilier européen des droits sociaux. Et moi, ce que je veux absolument, ce que Claude disait, il y a de plus en plus de gens qui s'éloignent du projet européen. Ce n'est pas uniquement du projet européen qui s'éloigne. Ils s'éloignent tout simplement de la politique parce qu'ils ne font plus confiance entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Moi, je dis toujours, et c'est le discours que je tiens au Parlement européen, parce que si je suis dans un groupe plus marqué à gauche, c'est quand même un groupe européen de gauche où les gauches ne sont pas toutes les mêmes. Si je prends la gauche roumaine et la gauche wallonne, on a un débat pour le moment sur l'accord avec les Canadiens. La gauche roumaine est 100% pour l'accord de libre-échange avec le Canada et la gauche wallonne est 100% contre l'accord de libre-échange avec le Canada. On est dans le même groupe politique. Donc c'est pas si simple que ça, malgré tout. Mais ce que je leur dis, c'est très bien de penser à gauche. Et heureusement qu'on pense à gauche. Mais à un moment donné, si c'est penser à gauche et agir à droite, ça ne va pas. Et dans ce cas-là, j'aime autant qu'ils pensent à droite. Au moins, ils ne créent pas de désillusion. Parce qu'il n'y a rien de pire que la désillusion. Il n'y a rien de pire que promettre et de ne pas faire. Et donc, c'est vraiment un discours qui prend du temps, qu'on essaye de rentrer dans la logique. Il faut savoir que ce discours de penser à gauche et faire à gauche, c'est très marrant, mais moi, j'ai rencontré hier matin 3 organisations qui sont plutôt des organisations de droite, qui sont le FMI, on ne peut pas dire que c'est vraiment à gauche, l'OCDE, on ne peut pas dire que c'est vraiment à gauche. Et la Banque mondiale, on ne peut pas dire que c'est tout à fait à gauche non plus. Les 3 m'ont dit exactement la même chose. On a aujourd'hui, au niveau mondial, deux problèmes que l'on rencontre partout dans le monde. Le premier, c'est l'évasion fiscale. Et Claude en a parlé tout à l'heure. Si on veut des politiques sociales, il faut des revenus. Et pour avoir des revenus, il faut qu'on attaque la question de l'évasion fiscale. Il n'y a pas d'autre solution. Le deuxième problème, depuis les années 80, dans le monde entier, sauf avec certaines exceptions, les salaires sont en chute libre dans le monde entier. Et on parlait tout à l'heure des rapports avec les partenaires sociaux. Vous savez, quand un banc patronal a la possibilité qui lui est offerte par le monde politique de ne pas se confronter à son banc des travailleurs, il n'y a aucune raison qu'il rentre dans une négociation. Aucune. Et aujourd'hui, au niveau européen et au niveau national, dans pas mal d'États, moi on prend la Belgique aujourd'hui, mais prenez l'Italie, c'est un PIDI, donc c'est un centre-centre. Ils sont en train de casser le mouvement syndical. Centre-centre. Si on prend la France aujourd'hui, ils sont en train de casser le mouvement syndical. Donc si vous offrez aux patrons la possibilité de ne pas négocier, ils ne négocient pas. On parlait tout à l'heure des pénuries. Pourquoi le patronat va travailler sur les questions des pénuries quand il est en pénurie, il peut aller chercher où il veut sa main-d'œuvre pas chère sans devoir négocier des augmentations de salaire? Moi, personnellement, je serais patron. Pas me casser la tête d'aller négocier avec des syndicats, alors qu'on m'offre la possibilité d'aller les chercher partout ailleurs sans aucune difficulté. Et donc, aujourd'hui, on est là-dedans, et c'est la raison pour laquelle les salaires chutent partout. Si les salaires chutent, les pouvoirs d'achat chutent. Si les pouvoirs d'achat chutent, dans une situation, alors je ne veux pas faire la logique de la consommation, mais on peut consommer, on n'est pas obligé de consommer des biens qui sont destructeurs de l'environnement. On peut consommer aussi des biens qui sont des biens qui soutiennent l'environnement. Par exemple, les constructions passives, si on avait plus de moyens pour se payer des constructions passives, on ferait des constructions passives. On ferait des aménagements de logements. Quand on voit les logements à Bruxelles, ce qu'ils sont comme énergivores, si on avait les moyens de se payer des isolations, ben on se paierait des isolations, mais on n'a plus les moyens. Et donc, on a une rupture de la croissance parce qu'il n'y a pas de moyens. Et c'est pas le centre Jean Jaurès français, ni l'IEV, ni des communistes qui le disent, c'est les trois associations libérales que je vous ai citées tout à l'heure qui le disent. Et malgré tout aujourd'hui, quand on est tant au niveau national qu'au niveau européen, on est encore sur des modèles qui sont des modèles des années 80-90 en matière de croissance. Et c'est ça qu'on doit aller casser. Donc moi, j'aime bien travailler sur des communications, on va le faire, parce que c'est aussi le job des parlementaires européens de le faire, mais je pense qu'à un moment donné, il faut aller tordre le modèle pour que ce modèle soit plus adapté à ce que lire et écrire... Enfin, lire et écrire ne devrait plus exister si on avait une éducation qui fonctionne, si on avait un système d'emploi qui fonctionne, si on avait une société plus égalitaire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Oui, je trouve que l'éducation permanente, c'est toujours important. Et donc, en tant qu'éducation permanente, ça aurait toute sa raison d'être. Mais pas comme soin de première nécessité. Aujourd'hui, lire et écrire devient un organisme de soins de première nécessité. Ça ne devrait pas être ça. Donc, alors, vous allez dire, mais elle est naïve, comment est-ce qu'on va y arriver? Ben, simplement, il faut faire des combats. Vous savez, moi, mon père, il était mineur et sidérurgiste dans la région du centre à la Louvière. Il m'a toujours dit, d'origine sicilienne, pour préciser, donc immigré première génération du Sud. Il m'a toujours dit, Marie, dis-toi bien une chose. Du ciel, il n'y a rien qui tombe. Sauf, me dit-il, en Belgique, la pluie. Et donc, tout ce que vous devrez obtenir comme acquis, il faudra aller le chercher et se battre pour l'avoir. Donc, il ne faut pas espérer que sans se battre, on n'aura rien. C'est pour ça que je fais cette petite incise, parce qu'on parle beaucoup du CETA, de l'accord avec les Canadiens. Vous savez, je suis en train de lire les 1600 pages pour le moment, hein. Donc, le début des 1600 pages, pour vous dire, le premier article qui devrait nous concerner comme bruxellois et comme européens en général. Vous savez que les Canadiens, dans l'accord de libre-échange Canada, définissent les citoyens canadiens comme étant des citoyens canadiens au sens de la loi canadienne. Très bien. Vous savez comment les Européens ont défini les citoyens européens ? C'est dans le premier article, il ne faut pas lire les 1600 pages. Les citoyens qui ont la nationalité d'un État membre. Vous travaillez chez Lire et Écrire. Est-ce que ça veut dire... Non, parce que la citoyenneté juridique des Canadiens, elle a été étendue à tout en fonction de ce que la citoyenneté canadienne leur donne. Les citoyens européens qui n'ont pas la nationalité, si on prend ici en Europe, en Belgique, ce sont des citoyens, les gens qui n'ont pas la nationalité, ils sont considérés comme des citoyens, avec des droits de citoyens. Ah ben, ils ne sont pas considérés dans l'accord canadien comme étant des citoyens. Rien que ça, ça pose une difficulté dans ce qu'on appelle citoyenneté européenne. Rien que pour ça, je ne signerai pas et je ne voterai pas cet accord, parce que pour nous, la définition de citoyenneté va beaucoup plus loin de la question de la nationalité. C'est quelque chose qui est fondamental, en tout cas pour nous Européens et pour nous Belges, de le faire de cette manière-là. Et donc, pourquoi est-ce qu'on doit se battre? Certains nous disent, mais vous allez isoler les Wallons dans le concert européen. Alors je dis, bah pourquoi pas? Si le concert européen joue une musique qui me fait mal aux oreilles, bah autant faire la bataille pour faire en sorte qu'à un moment donné, ils jouent des partitions qui sont un petit peu plus audibles que ce qu'elle est en train de jouer aujourd'hui. Et donc c'est ça qu'on doit faire. On a vraiment l'impression qu'on nous a coupé les bras et qu'on dit « vous pouvez râler, mais vous ne pouvez pas agir ». Et donc moi je dis « non, moi je veux râler et agir ». Et c'est comme ça qu'il faut qu'on bouge au niveau de l'Europe. Voilà.
Merci Marie Arena.